Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Smart Talk, un épisode particulier, un épisode un peu spécial. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à rencontrer Petar Mitrović. Ça se prononce comme ça ?
Ça se prononce comme ça.
Bienvenue Petar.
Merci, salut.
On va parler de tous les différents projets que tu as en cours actuellement, qui sont super intéressants. Est-ce que tu pourrais déjà, juste pour les personnes qui ne te connaissent pas, juste te présenter en quelques mots ?
En quelques mots, je m'appelle Petar, je viens de Yougoslavie, pays qui n'existe pas. Très important comme information parce que c'est un petit peu qui drille mes projets aujourd'hui et plutôt mes entre guillemets mes combats artistiques. Je vis sur la région vaudoise, lausannoise. Je suis en Suisse depuis 91 et voilà, je fais beaucoup de photos depuis plus de 15 ans.
Donc c'est vraiment aujourd'hui ton activité principale et essentielle, c'est que la photo?
Alors non, j'ai un travail qui me paye les factures parce que malheureusement ouais. Ma photographie est plutôt une photographie engagée, c'est pas ça qui rapporte le plus de sous. Mais c'est, je dirais que tout mon temps libre passe là-dedans, ça c'est sûr.
Ok, tu dis qu'il y a une évolution de la photographie avant les photographies engagées, comme tu dis, peut-être rapporter plus qu'aujourd'hui ou pas?
Oui, la photographie engagée à l'époque des photographes comme Arthus Bertrand, oui, ça rapportait plus parce que les mécènes étaient plus faciles à trouver. Aujourd'hui, on vit dans l'époque du crowdfunding où tout le monde a un peu l'impression qu'il suffit de lancer une campagne et puis être millionnaire, ce qui n'est pas le cas. Mmh. Il faut faire sa place dans une période où ça va vite, tout va très très vite. Il y a une nouvelle idée qui sort par jour, donc comment faire pour se démarquer de ce flot océan d'idées, ouais. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui.
Ouais. Avant de parler de tes projets, comment tu vois l'évolution de la photographie? C'est vraiment une discipline qui s'est démocratisée énormément due à l'avancée technologique, à l'accessibilité des appareils numériques, etc. Et puis des plateformes comme Instagram ou des choses comme ça, qui ont vraiment poussé les gens à aimer la photo, peut-être qu'ils n'aimaient pas avant. Pour toi, tout ce changement-là, c'est quelque chose de positif ou c'est quelque chose qui, pour des photographes professionnels, tu dis « Oups, pas terrible tout ça ».
Alors, j'ai envie de dire que c'est les deux. Alors, c'est clair que les photographes professionnels qui se sont cassés la tête à faire les études pendant des années pour devenir bons photographes, maîtriser une technique, je précise que l'œil, on ne l'acquiert pas dans les études, on l'a ou on ne l'a pas. Études photographiques, on va faire une école de photo en apprentissage, c'est pour maîtriser la technique, l'appareil et la façon de développer, peut-être un film, etc. Eux, je pense qu'ils doivent redoubler d'efforts et puis innover et revoir leur façon de faire leur travail. Il faut le faire différemment. Il faut se réinventer. C'est ça, en fait, je dirais, le challenge pour ceux qui ont envie de le faire.
Ouais.
Le fait que la photographie soit à la portée de tout le monde, c'est bien parce que on voit plus le monde. On voit le monde dans beaucoup plus d'endroits, plus de recoins que ce qu'on pouvait le voir avant. Aujourd'hui, on est, comme tu as dit, Instagram, Facebook, tous ces sites-là. On a des milliers de photos qui nous inondent de partout où on peut découvrir des pays qu'on n'a jamais vus de notre vie parce qu'on n'y est pas allé, parce que ça coûte trop cher, etc. Donc il y a ce côté la photographie peut être quelque chose d'enrichissant. C'est une arme.
Ouais.
J'ai toujours dit que la photo était une arme. On peut détruire ou construire avec.
Ouais.
Voilà.
La photo est une arme, c'est la parfaite transition pour parler de ton projet parce que c'est une sorte d'arme levée. En fait, en tout cas, il y a une conviction derrière de vouloir combattre quelque chose.
Oui.
One word for the world. Est-ce que tu peux expliquer ce projet?
Le projet, je l'ai mis sur pied il y a maintenant plus de 8 ans. Je me suis posé la question après une bonne soirée bien arrosée avec des potes et deux, trois événements qui se sont passés dans ma vie et la vie de deux, trois amis où on s'est rendu compte qu'en 2000, en 21e siècle, on en est encore à se juger. T'es espagnol, t'es portugais, t'es yougoslave, t'es africain, t'es grand, t'es gros, t'es petit. Enfin, il y a un milliard d'étiquettes qu'on peut se coller sur notre visage qui peuvent faire en sorte d'être des freins dans notre avancement dans la société. On pourrait te donner plus de chances si tu es moins gros que plus gros, ou si tu es blanc, si tu es noir, etc. Ouais. Puis je me suis dit, on est dans une période où on a presque trouvé le moyen d'aller sur Mars. C'est génial. Mais on n'a pas trouvé le moyen pour discuter avec la personne qui se trouve à 100 mètres en face de nous. On est de plus en plus en train de se mettre des barrières entre nous au nom du fait qu'on soit différent, alors que les réseaux sociaux sont là pour faire l'effet inverse. J'ai l'impression que soit on les maîtrise mal, soit on ne sait pas comment les maîtriser. Mmh. Et c'est ça qui est problématique. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'aime bien l'écriture, les mots avec les images, ce sont deux armes différentes. Comme je disais avant, l'image et les paroles peuvent blesser, tuer ou construire des situations. C'est à nous de voir comment est-ce qu'on a envie d'en faire usage. Je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour étiqueter ces gens-là? Tiens, si je leur écrivais un petit mot sur le front. C'est venu comme ça.
Très intéressant, avec toute l'histoire qu'il y a derrière le mot sélectionné par la
Exactement,
personne.
Exactement, oui. Donc la personne a choisi le mot, je lui demande souvent la même question, c'est si tu as quelques secondes de ton temps où tu as la terre entière qui a l'attention sur toi. C'est ce qu'on recherche tous aujourd'hui.
Oui.
De manière inconsciente, on est sur les réseaux sociaux, on court tous après des likes, après des vues, ouais, etc. Maintenant, imagine-toi que pendant, pendant quelques secondes, tu as le monde entier qui t'écoute. Quel mot tu auras envie de leur dire?
Ouais.
Et la personne, les personnes se prêtent au jeu, ils vont chercher très très loin et ils trouvent le mot. Et le mot, on l'inscrit sur le front. Et puis ensuite, la personne a l'opportunité de laisser un message qui va avec ce mot. Pourquoi elle a choisi ce mot-là? Qu'est-ce qu'elle avait envie de dire réellement au monde? Puis ça donne un portrait intéressant, un mot avec une gueule.
Ouais. Et puis concrètement, comment ça va se concrétiser ce projet? Où ce sera affiché? Où est-ce qu'on pourra voir ces photos?
Alors cette année, j'ai fait une action pour la semaine d'action contre le racisme dans les villes de Lausanne, Vevey, Montreux et Orbe. Lausanne, on pourra avoir 15 portraits de Lausannois qui sont issus de différentes origines, qui seront affichés sur les barrières du rond-point. Vevey, Montreux, ce sera sur les promenades des quais, au bord du lac. Il y aura aussi 16 portraits par ville.
D'accord.
Et Orbe, ils ont fait une espèce de parcours à travers la ville aussi avec des photos que j'ai fait sur Lausanne et Montreux.
Ouais.
Ils en ont pioché une dizaine dedans pour aussi les exposer sur Orbe.
D'accord. Et puis aujourd'hui, tu te limites à la Suisse, mais il y a une volonté quand même d'internationaliser ce projet?
Oui, clairement. J'ai déjà fait un test. Je suis déjà parti en Palestine, en Israël. On a pris 10 Palestiniens, 10 Israéliens qui avaient une claire envie et volonté de passer un message de cohabitation, de vivre ensemble. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé les écritures. On a écrit en arabe sur la tête des Israéliens et puis en hébreu sur la tête des Palestiniens. Et puis on a collé ces photos sur le mur de séparation, savoir qu'ils ont deux murs de séparation, dont un qui fait plus de 700 km de long, qui traverse le pays de part en part, un pays qui est déjà très petit. Mmh. Et puis le fameux mur de Gaza qui encercle Gaza, en fait.
Comment ça a été pris localement, ça?
Localement, c'était très très bien pris. D'ailleurs, les photos, elles sont 3 ans plus tard toujours là. Pas
d'accord,
toutes,
wow,
mais une grande partie sont restées collées sur ce mur, donc preuve que ça a été plutôt, ouais, bien accueilli.
Excellent.
Et parallèlement à ça, j'ai aussi engagé le chantier de la Corée du Nord. La Corée du Nord, où je suis parti faire une semaine de reportage photo pour faire une prise de contact avec les locaux, avec les autorités locales, leur expliquer ce qu'est ma démarche. Mmh. Et ça aussi, ça a bien fonctionné parce que je suis censé retourner l'année prochaine où j'aurai les Sud et Nord Coréens qui vont poser ensemble,
wow,
pour One World.
Wow, donc, voilà. C'est innovant.
Ouais.
Et puis, centraliser ensuite tout ça dans des livres, c'est quelque chose que tu as, c'est un projet peut-être que tu as dans la tête?
Alors oui, j'aimerais bien pouvoir en faire un bouquin avec ce que j'appelle moi des gueules fortes que je pourrais ouais, rencontrer à travers le monde, vraiment une gueule avec un mot, avec un message fort, et puis mettre, ouais, les meilleures photographies à travers ces pays que je visite dans un seul bouquin.
Ok. Quand tu interroges les gens, quand tu discutes avec eux avant de faire ces photos, je pense que tu dois être quand même confronté à une certaine souffrance aussi chez certaines personnes par rapport aux mots qu'ils ont choisis.
Oui.
Parce qu'il y a l'histoire derrière qui les rappelle quelque chose.
Oui.
Beaucoup de souffrance, tu as pu découvrir?
J'ai pu découvrir, pas mal de souffrance. Particulièrement une qui m'a touché, c'était la dame, Mme Noëlla Rouget, qui était une résistante française enfermée à Ravensbrück pendant 4 ans, contre travaux forcés pour femmes uniquement.
Wow.
Cette dame a choisi non pas un mot mais son numéro de prisonnier à mettre sur son front, donc j'ai pu l'interviewer comme tu es en train de faire maintenant pendant 3 heures d'interview de cette dame où elle parle de sa vie dans le camp, de sa rencontre, ouais, avec Himmler, de sa libération. Elle a assisté au jugement de ses bourreaux, ce qu'ils appellent des gardes de camp, des femmes. Elle m'avait marqué parce qu'elle m'avait dit, j'avais la gardienne principale de la prison, elle était aussi belle que méchante.
Wow.
Et voilà, ce sont des histoires où tu te dis que mon projet fasse le tour du monde ou pas, j'ai déjà rencontré toutes ces personnes-là, et elles sont belles, elles sont magnifiques. J'ai pu aussi assister à la rencontre d'un imam, d'un rabbin et d'un prêtre, où à Jérusalem il y a un cimetière. Ce cimetière-là, c'est pas comme chez nous, il n'y a pas un carré juif, un carré musulman, un carré chrétien, ils sont tous là.
Okay.
Ce qui rassemble, le point commun qu'on a entre les religions monothéistes, les chrétiens, les musulmans croyant en Jésus, ils croient qu'il va revenir.
Mmh.
Les juifs ne croient pas en Jésus, ils pensent qu'ils l'attendent toujours. Mais les trois attendent Jésus, pour certains pour la première fois, pour d'autres pour la deuxième fois. Et les trois croient qu'il va passer par la porte d'entrée de Jérusalem. Donc ils veulent tous être enterrés à l'entrée de cette ville,
okay,
pour être jugés en premier. Et là, la question que j'ai soulevée à ce moment-là, c'était de dire, mais c'est une fois mort seulement que vous arrivez à être ensemble, c'est dommage.
Oui.
Parce que quand tu regardes ce cimetière-là, il y a vraiment du tout.
Mmh.
Et c'est dommage de devoir être mort, et c'est là que j'ai eu le prêtre qui m'a regardé, il avait les yeux pleins de larmes, il m'a dit oui, t'as raison. on ne sait plus comment faire, mais tu as entièrement raison, parce que ouais. quelque part, c'est ça, ça nous réunit. Et puis ça, c'est un point parmi tant d'autres en exemple qui font que les religions se ressemblent les unes aux autres.
Bah justement, ces expériences que tu as vécues, dans ta perception maintenant, peut-être de l'humanité ou en fait des valeurs des êtres humains, avant le projet, après le projet, est-ce que ta perception, elle a évolué dans un sens ou dans l'autre ?
Oui, clairement, je suis moins méfiant, j'ai moins peur, parce que le message que j'essaie de passer, il s'applique déjà en premier à moi, avant aux autres. Mmh. Je ne suis pas Jésus qui prêche la bonne parole. Je me méfie beaucoup moins. Alors déjà, je ne suis pas forcément quelqu'un d'extrêmement social, malgré ce que tu peux voir, j'ai le contact facile, mais quand tu me mets dans une soirée où je ne connais personne, le premier pas au début était plus difficile que maintenant. Maintenant, ça va beaucoup plus facilement. Mmh. J'accoste une personne dans la rue parce que je trouve qu'elle a une bonne gueule et que j'ai envie de la photographier.
Ouais.
Ça a beaucoup changé. Donc, mon appréhension vis-à-vis des gens que je ne connaissais pas, elle a carrément disparu.
Ouais.
Et j'ai déjà traité les gens avant ce projet comme ce que moi, j'aime bien appeler des pages blanches. Et là, la page est de plus en plus blanche. Toi et moi, on ne se connaît pas.
Ouais, non, peu.
Peu.
Ouais.
T'es une plage blanche pour moi.
Ouais.
T'es pas juste un Suisse de 30 ans.
Ouais, bon, surtout j'ai 43. Mais...
Voilà. Tu vois, c'est déjà mal parti. Donc la page, on va la remplir, on va peut-être ça va me plaire, ça deviendra un chapitre, peut-être on va devenir des amis, ou ça me plaira peut-être pas, je vais la classer.
Ouais.
C'est comme ça que j'essaye et j'y arrive avec beaucoup plus de facilité d'appréhender et d'accoster les gens comme des pages blanches. Ils ont
sans préjugé, ouais.
Sans préjugé. Et on doit le remplir ensemble, cette page blanche.
Mais c'est réaliste, franchement. Est-ce que c'est plus théorique que pratique, dans le sens où... Est-ce que c'est pas dans la nature humaine de forcément avoir un sort de préjugé ?
Bien sûr, ça l'est. On l'a tous. Je l'ai toujours. Et on a toujours une méfiance. Je viens d'un pays qui est en guerre. Donc, automatiquement, la guerre que nous avons vécue avec ma famille, on l'a tous vécue d'un côté comme de l'autre. Les Serbes l'ont vécu de la part des Croates, les Croates de la part des Serbes, les musulmans de la part des deux côtés. Enfin, voilà. Donc, on a tous, déjà rien que par cette expérience-là, j'ai pas vécu grand-chose. J'ai vécu 3 mois de guerre. C'est peu et beaucoup à la fois, parce que c'est des choses que je souhaite voir à personne. C'est pas très beau à voir ce que l'humain est prêt à faire à l'autre au nom de on sait pas trop quoi, d'un terrain, d'un accent, d'une religion, d'une ethnie. Peu importe. Donc tu nais avec une méfiance. Moi, je suis né dans l'éducation par mes parents de me méfier de tout ce qui était musulman.
Ouais.
Et c'est vrai que de manière naturelle, c'est quelque chose que j'avais.
Ouais.
Ça m'empêche pas d'avoir aujourd'hui une femme qui pour moi la meilleure de mes moitiés, qui est marocaine et musulmane. Donc voilà.
Ouais, absolument. Donc tu dis c'est quand même quoi, l'objectif, c'est quand même d'avoir conscience de ses préjugés et puis se rendre compte que c'est aussi un effort qu'on doit se faire
bien
à nous-mêmes
sûr,
pour
bien
enlever
sûr.
ces
C'est une discipline.
C'est une discipline, voilà.
C'est une discipline, mais qui est bénéfique parce que tu te rends pas compte le nombre de choses que tu peux découvrir, la richesse qui se cache de l'autre côté du monde, qui peut être l'à côté. Hein.
Ouais.
Ton billet d'avion pour aller te rendre à Barcelone, où j'y vais dans 2 jours, moi, je l'ai payé 30 francs les retours, alors que c'est peut-être plus cher d'aller à Genève.
C'est
plus cher d'aller à Genève. Donc, on n'a plus vraiment d'excuses pour ne pas aller voir l'autre. Et une fois que tu as traversé, tu as fait 1 heure d'avion, tu découvres une autre vie, une autre culture. C'est juste... J'ai la peine à concevoir qu'on ne puisse pas avoir cette curiosité-là.
Un jour, les gens, on va se réveiller et puis on va commencer à changer, tu penses ? Ou c'est voué à l'échec ? Réfléchis bien avant de répondre.
Oui. J'ai un pied ancré au sol, l'autre qui est en l'air. Donc, quoi, tu vois, c'est un peu qui m'a.
Ouais.
J'ai une réponse. Malheureusement, l'histoire nous prouve qu'on n'apprend pas nos erreurs.
Mmh.
L'histoire nous prouve qu'on est. J'ai suivi une conférence il y a 2-3 jours sur la disruption. Et là, il y avait une dame qui est intervenue, qui était une professeure de la PFNI, chercheuse, qui nous parlait de l'intelligence artificielle.
Oui.
Et quelqu'un lui a posé la question quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et nous, en tant qu'humains. Il dit de l'intelligence artificielle, par exemple, je crée un algorithme qui va devoir gérer une chose et puis va pouvoir la gérer tout le temps. Nous, on va vite s'ennuyer de ça et puis on a besoin de changement.
Ouais.
L'être humain évolue. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. D'un côté, c'est vrai. D'un côté, l'être humain est toujours à la recherche du pouvoir, toujours à la recherche d'une espèce de reconnaissance et quitte à marcher sur l'autre. Et j'ai un peu peur que ce côté-là, ça va pas aller en s'améliorant. Ça peut s'arranger, ça peut s'adoucir, ça s'est déjà adouci. Les guerres ne sont plus pareilles qu'avant.
Ouais.
La première guerre, la deuxième guerre mondiale était extrêmement sanglante. Là,
elles sont plus subtiles maintenant.
Elles sont plus subtiles. J'appelle ça quand même une évolution, entre guillemets. J'espère que dans l'avenir, on s'appréciera plus, avec moins de frontières, mais elles seront toujours là. L'humain, tant qu'il sera là, aura toujours le besoin et l'envie de gouverner et de se sentir supérieur.
Et selon toi, le monde, il est dicté par quoi ? On a tous envie de répondre l'amour et tout ça, machin, mais réellement aujourd'hui ?
Par nos 7 péchés capitaux.
Ok, qui sont, rappelle-les.
Pour ma part, la gourmandise. Donc, je suis clairement gouverné par la gourmandise. Elle est plus forte que moi, j'avoue, c'est mon Dieu. la gourmandise, l'avarice, je ne connais pas tous par cœur, mais il y a une histoire liée à l'argent, il y a une histoire. Ouais. Voilà. Ouais. C'est des choses que l'humain a de la peine à gérer.
Ouais.
Tant qu'on se remet, on sera tous accro à un besoin quelconque. Et tant qu'on aura ça, on sera gouverné par ça.
Ouais. Je suis assez d'accord. J'ai la peine d'être très très optimiste sur l'évolution. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui les guerres et les combats entre territoires, entre religions, etc., elles deviennent beaucoup plus subtiles avec l'intelligence artificielle, avec Internet, avec même des virus qu'on peut mettre, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses malheureusement qu'on ne voit pas et qui sont faites pour entretenir un certain climat de peur et de doute dans certains pays.
Malheureusement, oui, mais heureusement, d'un côté, pour revenir au sujet principal, l'image est toujours là et sera toujours là. Je suis un photographe qui s'appelle Ron Haviv, qui est un photographe, israélien juif, qui a été photographié à la guerre en Yougoslavie, donc moi j'y étais. Et c'est ces photos à lui qui ont réveillé la conscience de l'OTAN, des États-Unis et autres pays qui ont eu beaucoup de réticence à intervenir. Et lorsqu'il a mis les premières photographies montrant des camps de concentration qui étaient en train d'être reconstruits pendant cette guerre-là, ces photos-là ont fait bouger les choses. Et historiquement, d'autres fois aussi, les photos ont aussi fait que les États-Unis ont décidé de bouger vers l'Europe pour libérer les prisonniers des camps nazis. La photographie sera toujours là, je pense, quelque part pour nous ramener les pieds sur terre ou pour nous faire rêver d'un autre côté.
Oui. La force de l'image, quoi. Moi, je me souviens, je sais que c'est un de tes gourous, mais le photographe, je ne sais pas son nom, malheureusement, le photographe de Benetton.
Oliviero Toscani.
Voilà, qui a fait, tout le monde se souvient de ces campagnes provocantes, très provocantes, mais qui nous forçait en regardant ces photos de s'asseoir et de réfléchir à cette photo-là.
Elles font énormément réfléchir.
George Bush qui embrassait, je crois, le pape ou des choses comme ça. Ou
le président iranien, je crois.
Ou le président iranien, pardon. Ouais. Des choses assez exceptionnelles.
Des photos, lui, était clairement un des éléments qui m'ont beaucoup influencé dans mes démarches de photos. Là, il y a une
ça
photo que j'aime.
Ça se voit.
Je pense, j'essaie de ne pas copier.
Tu ne copies pas du tout, mais il y a une intensité dans les photos qu'on...
Il y a le besoin de faire comprendre aux gens. La photographie, il en a fait une, c'est une femme africaine noire, mais extrêmement noire, qui donne le sein à un bébé très blond. Et la photo est super bien faite, et puis c'est preuve qu'en fait, on est tous pareils. Mais il s'est efforcé de nous faire comprendre pendant 20 ans à travers ses campagnes, et puis je trouve qu'il a trouvé la bonne façon de faire réfléchir les choses.
Est-ce que la recherche de la provocation, du buzz, fameux buzz dans la photographie, il va malheureusement des fois au-delà de la recherche d'authenticité? Et où est la limite? Tu vois, je veux dire.
À la limite, j'ai posé cette question une fois à Darius Rejevin à RTS, lui demandant comment est-ce qu'il jauge la limite du choquant pour faire réfléchir. Parce que quand je regarde la télévision au Maroc, quand je vais voir le pays de ma femme, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune censure, aucune limite. Il y a eu quelque chose, c'est non limité chez nous, j'ai l'impression que c'est très censuré. On essaie de lisser l'image pour choquer le moins possible.
Je dirais c'est une erreur.
Oui et non. Choquer pour choquer, je trouve que c'est infructueux. Il faudrait essayer de choquer de manière intelligente pour que ça fasse marcher. Je t'explique. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu l'image du petit Thaïlan, le petit garçon, le corps de ce petit garçon sur la plage en Grèce qui était échoué, qui a touché le monde entier.
Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr.
Après ce petit garçon...
C'était du fake, non? C'était un vrai ou c'était...
C'était un vrai. Okay. Donc cette image-là, elle a touché le monde entier. Ça a fait des engouements immenses à travers le monde. Des gens voulaient faire des choses concrètes. Ouais. On fait des choses concrètes. Mais les plus de 600 et quelques gosses qui sont morts après lui, dont on a vu aussi les images, elles n'ont pas touché le monde entier.
Ouais.
Pourquoi? Parce que, ça c'est encore une fois mon analyse, on est de nouveau dans cette période où tout va vite. Donc ta tête, il faut qu'elle s'habitue très vite. Donc ce qui est censé être choquant, devient gentiment banal. Pour toi, ça, ma foi, ça fait partie de la banalité. Il y a des guerres dans le monde, mais moi, demain matin, il faut que je me lève, j'ai bossé.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc, on passe très vite à autre chose. On zappe. Je suis né à l'époque, il y avait 13 chaînes de télévision, et on en a plus de 1000 aujourd'hui. Et puis, encore, je suis gentil.
Ouais.
Donc, il y a de plus en plus de choses à gérer, de choix et d'informations. Et plus il y en a, plus le buzz ou le choc sera moins efficace. Donc, je pense que pour moi, il faudrait revenir un petit peu en arrière pour faire mieux réfléchir les gens. Ouais. À l'époque des Toscani, ils ne faisaient pas les photos pour faire le buzz, il n'y avait pas tout ce genre d'internet, etc. Donc il y avait des bouquins pour communiquer leur photographie ou peut-être une expo par-ci, par-là. Ouais. Mais ils les faisaient quand même. Parce qu'il y avait... Et puis ça fonctionnait. Parce que c'était les premiers à faire ça.
Ouais.
Aujourd'hui, ça fonctionne, je pense, un peu moins.
Ouais, cette recherche du buzz, c'est toujours le... Et c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que dans le monde de la photo, en tout cas, tes photos, lorsqu'on les voit Les quelques fois que je les vois défiler dans mon fil actuel, je m'arrête tout de suite, elles te laissent pas indifférent et tu as cette capacité de capter l'attention des gens. Ça, j'en suis personnellement persuadé. Mais comment tu vois ça aussi? Est-ce que la photo reste un art qui favorise le fait que les gens s'arrêtent un petit moment pour comprendre et interpréter cette photo plus que... Tu as plus que Instagram et tout ça, des choses comme ça.
Oui, ça peut, bien sûr, mais il faut savoir là d'une simple photo. Il y avait une époque ou une période où c'était la loi d'une photo. Ça veut dire que tu réussis à une photo, tu la présentes à un concours, tu pouvais gagner un prix, ouais. Et puis ça marchait super bien. Ouais. Mais c'était une photo. Depuis quelques années, ça a changé. Maintenant, c'est la loi des séries. Donc, moi, quand j'ai commencé mon projet One World au début, qui s'appelait Je suis, avant qu'il y avait Paris, Charlie Hebdo et Paris, et tout ce qui, ils sont tous devenus Je suis quelque chose. J'ai voulu me démarquer de ça. Donc, de toute façon, j'avais envie de changer mon nom du projet, mettre aussi un titre anglais, puisque je voulais traverser les frontières. Et j'ai rencontré cet ancien directeur du musée de la photographie de la zone de l'Elysée, qui est Stam Sturdze, qui est l'actuel président de la photographie festival d'images d'Arles, qui m'a dit... aujourd'hui, et là je te parle d'il y a 8 ans, c'est la loi des séries. C'est ça qui fera que ça fonctionne. Tu dois continuer dans ton projet, il est génial. Et tu as trouvé la façon qu'il faut pour faire réfléchir les personnes parce que c'est un projet monté sur la loi d'une série. Donc je pense, je suis persuadé qu'au jour d'aujourd'hui, si les gens ont envie de faire passer un message, peu importe le sujet qu'il y a, ils doivent monter un projet clairement et il faut que ça devienne une série. Alors que ça soit une série 10 photos, 20 photos, 30 photos, on s'en fout.
Ouais, c'est intéressant.
J'ai décidé d'en faire. Ce projet-là, ma vie, ça, j'ai
donc
pas
toi, toi, par exemple, ça va être pendant plusieurs années, ce projet.
Ça sera plusieurs années. Ouais. Ça sera en fonction de mes moyens financiers qui détermineront si je pourrais, de comment est-ce que je peux bouger entre pays, etc.
Alors, justement, tu parles de moyens financiers. Comment tu finances un tel projet? Parce que c'est quand même beaucoup de déplacements. Oui. C'est quand même beaucoup, beaucoup de temps à faire des interviews avec les gens, à filmer. Mm-hmm. Parce que derrière chaque photo, il y a une petite explication vidéo.
Oui.
Comment tu gères tout ça, la recherche de fonds?
Alors, la recherche de fonds, jusqu'ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu approché les 2-3 mécènes qui étaient connus de la place suisse, qui étaient pour le moment un petit peu infructueuses, sauf certains qui ont l'explication de dire « vous n'êtes pas sur le bon compte, donc on ne peut pas vous aider ». Donc du coup, j'ai décidé de bouger par moi-même en attendant qu'il y ait un de ces mécènes qui vienne par miracle toquer ma porte, mais ça c'est plutôt nous qui devons les toquer à l'heure, ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai pris un deuxième job, donc j'ai depuis 8 ans un travail où je me lève très tôt le matin, 3h. 3h30, dépend des jours.
Non, chaque matin.
Chaque matin, du lundi au samedi. Et je distribue les journaux. 24h est le temps. Donc, moi, je suis un porteur, ce que j'appelle bouche-trou. Donc, je pars de ça. Ma région, c'est de Aigle jusqu'à Sainte-Croix. Donc, je connais toutes ces tournées-là. Ce matin, j'étais chez toi à Vevey. C'est ça qui me finançait mon projet jusqu'à cette année. Mais cette année, j'étais malheureusement licencié cet emploi parce qu'ils ont estimé, après 7 ans, 8 ans bientôt, que je travaille trop.
Que tu travailles trop.
Oui, la loi sur le travail apparemment a changé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2020. Et du coup, je fais trop d'heures. C'est la même depuis 8 ans, mais là, c'est d'un coup devenu quelque chose d'illégal. Donc du coup, je perds. En fait, c'est ça principalement qui me finance.
C'est admirable de faire cet effort pour un projet. Et puis ça démontre aussi ce que souvent je le dis quand j'ai la chance de donner des formations avec des générations un peu plus jeunes. Tout le monde est capable de dire où est-ce que je veux arriver. Et puis souvent, on a envie de dire, OK, puis maintenant, fais une autre liste, un autre bout de papier où tu mets quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire pour arriver là.
Oui.
Puis en fonction des sacrifices que tu n'es pas prêt à faire, tu peux déjà supprimer 2 ou 3 visions et objectifs.
Oui.
Parce que tu les atteindras jamais.
Clairement.
Donc oui, mais écoute, je pense que l'investissement de ce projet par des entreprises privées, c'est quelque chose où tu serais ouvert.
Bien sûr, oui.
Parce que je veux dire, s'associer à ce genre de projet qui est extrêmement noble et qui fait le tour aussi de pas mal de magazines, etc., ça peut être intéressant. Comment, si quelqu'un voudrait participer au financement, comment est-ce qu'il doit procéder?
Il m'appelle.
C'est assez simple. où est-ce qu'on peut te trouver, Vétard?
Je pense que si tu tapes sur Google, mon nom et mon prénom, dans les 3 premières pages, c'est moi.
D'accord.
Mais hormis ça, sur ma page internet www.one-world.org, il y a le bouton contact, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a tout ça, c'est public et ouvert, il y a tout ce qu'il faut.
D'accord. Alors, www.one-world.org.
.org. Oui.
Ok, super. Peter, merci énormément pour ton temps.
C'était
très, très sympa. On va diffuser ce podcast sur notre chaîne de podcast et également faire des capsules vidéo qu'on va diffuser en parcimonie ces prochaines semaines.
Grand
avec
merci.
Les liens sur tes projets. Donc vraiment, moi, j'ai vraiment envie d'inciter les gens à aller voir le projet et voir ces photos qui sont spectaculaires. Et puis de se déplacer à Lausanne, à Montreux-Vevey et puis à
Orbe.
À Orbe, à partir voilà. du mois de mars. Hein.
Alors, 9 mars pour Vevey et Montreux. L'expo commence le 9 mars. Ça sera sur une durée de 3 à 4 semaines.
D'accord.
Lausanne, c'est du 16 mars au 12 avril, pendant un mois sur le Grand Pont. Et puis Orbe, je ne connais pas encore les dates, il doit me les confirmer.
D'accord, super. Et puis d'autres dates certainement à venir par
d'autres
la suite.
Dates à venir, oui.
Ok. Merci beaucoup, Pétard. Et puis merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et je vous dis au prochain Smart Talk.